On est avec Lamance Mazou et Marie-Hélène Baquet pour évoquer ce livre qui est « J'étais un chef de gang ». Est-ce que vous pouvez nous parler d'abord de la manière dont vous êtes rencontrés et puis l'objectif de ce livre ?
Eh bien, nous nous sommes rencontrés par des réseaux personnels, donc par un ami commun qui m'avait parlé de l'expérience de Lamance. Donc, j'ai voulu au départ faire une interview. Et le travail que j'ai engagé avec Lamance, bon, s'est avéré être un travail de long terme et son témoignage m'a semblé suffisamment important pour qu'on sorte l'idée d'écrire un ouvrage à partir de ce témoignage. Donc l'objectif pour moi de cet ouvrage, c'était de montrer un autre regard que le regard très médiatique et souvent caricatural qu'on peut avoir sur la jeunesse des banlieues, en particulier aujourd'hui quand on entend tout ce qui peut être dit sur les bandes et qui relève largement du fantasme.
Alors c'est à la fois un témoignage d'expérience, celle de Lamance, et aussi une analyse sociologique. C'est comme ça que se partage le bouquin. Il y a deux parties vraiment.
Oui, il y a deux parties dans l'ouvrage. Donc une première partie qui est issue de longs entretiens que j'ai fait avec Lamance, que j'ai retranscrit, qu'on a remis en ordre et sur lequel ensuite Lamance est lui-même réintervenu. Et puis une deuxième partie qui est donc une enquête sociologique faite à partir d'autres entretiens avec des membres de bandes, avec des élus locaux, des responsables associatifs, et puis sur la base d'une revue de presse que j'ai faite sur l'ensemble de la période que raconte Lamance.
Alors peut-être un mot aussi avec Lamance. Comment s'est fait votre rencontre et puis aussi comment s'est fait la démarche de parler de toute cette expérience au départ.
En fait, je vais plutôt répondre à la question en disant pourquoi j'ai écrit ce livre. Alors, j'ai écrit ce livre vraiment pour que ce soit un outil pour mieux aborder la thématique des violences urbaines qui nous concerne tous depuis un certain nombre d'années, puisque c'est ce qui a fait gagner les élections à deux de nos présidents. C'est un problème de société aujourd'hui. Je l'ai fait également pour que les politiques comme les journalistes puissent mieux saisir ce problème et l'aborder et mieux l'exprimer sans le déformer, pouvant ainsi continuer à nourrir ou créer certains stigmates comme certains fantasmes, qui ne seraient pas bons parce que finalement ça ne tenterait en fin de compte qu'à diviser la société, parce que je considère qu'il n'y a pas deux sociétés, une société entre guillemets, bon, le ZAR et la société d'à côté, mais une seule société avec des gens qui, même s'ils sont issus de l'immigration, sont avant tout des Français. Vraiment, voilà, j'ai voulu que ce soit un outil pour mieux comprendre, mieux aborder ce problème et arriver aussi à pouvoir y lutter efficacement. Voilà pourquoi j'ai écrit ce livre.
Alors quand on parle d'un tel sujet, on peut facilement, y a des gens qui peuvent avoir une réaction de rejet et aussi à l'opposé une réaction de fascination par rapport à cette vie de gangster, quoi. Comment éviter de tomber justement dans ces travers, quoi ?
Alors effectivement, on était tout à fait conscients de ces deux risques. Donc le choix même du mode d'écriture de l'ouvrage nous semblait important. D'une part, donner un témoignage de l'intérieur qui n'est pas du tout romantique, qui ne met pas la violence en exergue, mais qui est l'expérience d'un homme qui a parcouru cette histoire. Mais d'autre part, asseoir ce témoignage sur d'autres témoignages, d'autres entretiens, une analyse sociologique plus en profondeur.
Alors, comment regardez-vous un petit peu tout le discours actuel sur justement cette lutte contre les gangs, hein, on entend beaucoup de choses, notamment de la part du gouvernement en ce moment, tout ce discours de lutte contre les gangs. Comment vous recevez ce discours ?
Déjà, dans un premier temps, moi, je serais tenté de dire, et je vais dire, quand on parle de 222 bandes, 75% dans la région parisienne, 2500 membres permanents et 2500 autres occasionnels, je me pose des questions sur la méthodologie, déjà d'une part, et deux, où sont-ils ? Bon, à part les mêmes jeunes dans les cités, avec leurs problèmes et tout, depuis un certain temps, ceux-là, oui, voilà, mais si c'est eux les bandes en question, il faut qu'on m'explique clairement la définition de ce qu'on peut appeler bande. Moi je parlerais plutôt de groupe de jeunes. Voilà comment je verrais les choses. Après, chacun est libre de juger.
Il me semble que le danger du discours actuel, c'est de rentrer encore plus dans des politiques sécuritaristes qui sont bien engagées depuis quelques années, et de penser que c'est en légiférant qu'on réglera la question de la jeunesse des banlieues, qui par ailleurs n'est pas du tout analysée, et alors que les politiques publiques qui seraient nécessaires pour aider les jeunes à s'intégrer, à trouver leur place dans la société, ne sont pas du tout mises en œuvre, et qu'au contraire même, aujourd'hui, on assiste à une casse de ces politiques publiques.
Moi, je vais rebondir sur ce que dit Marie-Hélène Baquet. Souvent, quand on parle de la problématique de ces jeunes-là et tout, on parle que des conséquences. Mais les causes, il faut aussi les voir. Si on arrive à mieux saisir les causes et tout, je pense qu'on pourra lutter efficacement contre ce problème-là. Et bon, c'est vrai que ce problème-là, c'est avant tout quoi ? Bah, concrètement, on a des gens qui nourrissent des colères, qui sont frustrés depuis un certain nombre d'années. C'est un héritage aussi de leurs parents. Voilà, qui n'ont pas su trouver, ou à qui on n'a pas laissé toute la place qu'ils désiraient ou qui pouvaient être en droit de recevoir ou d'attendre dans la société. Et donc tout problème est là. Aujourd'hui, moi je pense que c'est important de laisser des espaces à ces jeunes, leur donner des vraies possibilités pour accéder à des vrais métiers, pour accéder à du travail tout simplement, pour pouvoir entrer dans des écoles intéressantes, hein, avoir des voies professionnelles intéressantes comme au niveau de l'école. Donc voilà quoi. Leur donner des possibilités de vivre leurs droits de citoyens français pleinement, tout simplement.
Vous avez parlé de l'amalgame qui est fait souvent entre les groupes de jeunes et des gangs. Qu'est-ce qui définit en fait un gang?
Alors, d'abord, plutôt que de gangs, je parlais de bandes. Hein. Ce qui définit des bandes, c'est que ce sont des groupes structurés qui vivent beaucoup dans l'illégalisme, qui ont des approches, qui développent des pratiques délinquantes. Telles que c'est défini aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur, il est défini aussi comme étant en lien avec des trafics plus ou moins mafieux. Or, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, ces groupes de jeunes, et en particulier les groupes de jeunes qui font le plus parler d'eux, ne sont pas du tout articulés avec des business, et que s'il existe bien des formes de business, de trafic mafieux dans certaines cités, c'est pas là où on entend parler le plus de jeunes, parce que ces trafics ont besoin de tranquillité, et ils ne naissent pas dans les cités, mais ils s'appuient par contre sur la précarisation d'un certain nombre de jeunes et de familles pour se développer dans ces quartiers-là.
Alors la Manse, vous êtes passé par la case prison, là vous sortez un livre, vous en êtes où un petit peu dans votre vie, on va dire?
Dans ma vie, j'ai fait pas mal de choses depuis une bonne quinzaine d'années, hein. J'ai travaillé, comme tout un chacun, j'ai bossé comme agent administratif pour Journal Libération, j'ai bossé pour France 2 comme chroniqueur d'images et fixeur, j'ai eu ma propre société de communication pendant une part de 3 à 4 ans, et après ça a été le projet de ce livre, donc aujourd'hui je travaille encore pour un office d'HLM, et puis il y a plein d'autres projets qui sont en cours, voilà, tout simplement.
Peut-être un mot sur le salon du livre. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez de ce salon qui est aussi construit autour de deux idées fortes, hein, expression populaire, critique sociale. Est-ce que vous d'abord vous reconnaissez dans ces thèmes? Et puis un mot sur l'ambiance générale du salon.
Alors oui, moi je me reconnais complètement dans ces termes, et d'ailleurs c'était dans le choix d'écriture de ce livre-là, il y avait en même temps la notion d'expression populaire, c'est-à-dire le fait de donner la parole à, et il me semble que c'est sans doute un des rôles majeurs aujourd'hui des sociologues, de ne pas avoir un discours en surplomb de la société qui prétend donner la vérité, mais de donner une interprétation et de donner la parole aux acteurs sociaux. Critique sociale, bien sûr, dans cette période de crise, et notre livre s'inscrit complètement dans cette critique et des politiques publiques et des politiques qui sont conduites actuellement. Et puis c'est très symbolique que ce salon se tienne un 1er mai, qui est cette année un grand moment de manifestation. Je suis moi-même universitaire et je participe aujourd'hui au mouvement qui mobilise les enseignants, les étudiants et le personnel des universités. Quant à l'ambiance du salon, eh bien, c'est une ambiance chaleureuse de débat, et nous sommes très heureux d'en être et d'avoir été invités. Donc nous remercions les organisateurs.
la Manse sur le salon ?
Bah, écoutez, pour moi c'est une première, mais en tous les cas je suis ravi d'être ici, j'ai été bien accueilli, donc je souhaite un grand bonjour à tous les citoyens d'Arras. Donc voilà, je suis ravi d'être dans cette ville. Moi ce que je voudrais dire c'est que j'espère que la jeunesse en règle générale, mais plus particulièrement celle qui vit dans les banlieues, elles feront un peu ce que je fais aujourd'hui, accepter de s'ouvrir vers l'extérieur, aller à la rencontre des autres, échanger pour mieux se connaître et se comprendre et cohabiter comme il se doit, avec tout le respect qui est dû aux uns et aux autres. Donc voilà ce que je souhaite vraiment.